9h, dans le bureau de Parjupiter.
Alors attendez, mais qui est assez dingue pour accepter d'être notre invité aujourd'hui?
Bah justement, on s'est dit, tiens, on va inviter quelqu'un de détendu.
Bah oui.
Voilà, et qui connaît bien France Inter.
Et qui a de la dérision aussi, parce que c'est plus reposant pour nous, tu vois.
Bon, allez, on joue, tu devines, Guillaume.
Ah non, mais c'est vache, t'as vu combien d'humoristes sur la chaîne?
Alors, je t'aide avec un indice, attention, c'est pas Dominique Seux.
Ah d'accord, attendez, quelqu'un à France Inter qui a de l'humour. Fabrice Rouel.
Hein, mais quand c'est drôle à faire sensible?
Oh bah, il y a quand même des passages poilants, hein.
Bah enfin, Guillaume, tu peux pas dire ça.
Ah ouais, et la liberté d'expression, tu connais, Charline?
Ouais, fais gaffe avec ça quand même.
Bon, en tout cas, c'est cool. On va pouvoir lui poser toutes les questions vraiment intéressantes.
Ah, comme quoi?
Eh ben, Fournirail chaussait du combien, par exemple? Ça, on sait pas. Ouais. Hein, et Dupont de Ligonnès, il était myope ou astigmate?
Ben, et Landru, avait-il une âme de femme au foyer?
Non, mais non, pas de meurtre, pas de violence. Du calme, voilà, du calme.
Comme un lac.
Ah, attendez, calme. Alors oui, Thomas VDB,
non,
c'est ça?
C'est, enfin, si, il sera là, mais comme chroniqueur.
Ah, non, oui. Pas calme. Il est juste sous l'emprise de la drogue.
Non, t'as dit calme comme un lac.
C'est un humoriste fan de la Martine.
Ah, Guillaume, fais un effort, s'il te plaît.
Dans quel pays se trouve des lacs?
La Suisse, Marina Rollman.
Enfin.
Ah là là, mais c'est vous m'avez embrouillé, vous m'avez dit que c'était Fabrice Drouel l'invité.
Enfin, c'est toi qui as dit ça.
Ah, c'est moi? Ah ouais, oh, je sais plus, ouais. Ah, de toute façon, j'ai pas assez dormi, désolé. J'ai regardé un documentaire sur Guy Georges jusqu'à 4h du mat, là.
Voilà, et oh, tu devrais te calmer avec ces trucs-là, toi.
Ouais, t'as raison.
Bon, allez, on prépare l'émission. Vous connaissez qui comme tueur en série suisse, vous?
France Inter et bienvenue chez les dangereux activistes de la rigolade, dont voici la devise: la bave du facho n'atteint pas la blanche colombe. Voici le sommaire de l'émission. On s'est fait niquer par les Américains, les gars. L'affaire des sous-marins révèle le mépris de Joe Biden pour son allié français. L'allié français aujourd'hui symbolisé par un Jean-Yves Le Drian très 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 colère.
Tu trouves pas un peu bizarre toi ce mec?
Quel point de vue?
T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer?
Les goûts culturels sont-ils plus élitistes à Paris qu'ailleurs dans le pays? Et si vous visitez Paris, irez-vous d'abord voir l'Arc de Triomphe emballé par Christo ou la sculpture hommage à Johnny Hallyday? Ou les deux, à moins que votre trip ce ne soit les tulipes de Jeff Koons?
Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Hein.
Avant Friends, il y avait une autre sitcom avec des amis trentenaires qui se passait également à New York. Elle était extraordinaire, elle s'appelle Seinfeld et elle arrive sur Netflix. Comment les jeunes gens de maintenant vont-ils réagir à cette série sans téléphone portable, sans internet, sans dragon et qui ne parle de rien? Bah, ça c'est un vieux débat.
Ça n'intéresse plus les jeunes. Ce qu'il leur faut maintenant, ce sont des héros virils et musclés, genre Rocky.
Et Juliette Arnault est à mes côtés aujourd'hui.
Ah,
donc.
Mais oui, c'est Juliette Arnault.
Ah, oui, tout à fait. Et en l'honneur de notre invité, une équipe faite de rigolos de France Inter, avec d'abord celui qui arrive toujours dans le bureau avec la meilleure vanne de la journée. Et les gars, est-ce que vous êtes chaud pour du jazz électro-albanais? Et nous, on n'est pas trop chaud, mais comme il nous fait peur physiquement, vas-y pour les Albanais. Et de quoi parle-t-on aujourd'hui, Chewbacca?
Eh ben, de rock, mais du Nil. Je vous dirai tout à l'heure.
Ok, chypriote. Dites-le que c'est chypriote.
Mais voilà.
Ensuite, aucune définition de l'humour ne me semblait réellement lui convenir, mais merci mon Dieu, le rap existe, et notamment le rappeur PKL qui chante que, et je le cite, « L'humour, c'est la franchise des lâches ». Et voilà, Guillaume Marie.
Ah bah oui, ça, ouais, ça me correspond pas mal. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bah, j'étais à la grande manifestation des chasseurs à Amiens ce week-end. Ouais, c'était bien, je me suis bien régalé. J'ai rencontré plein de gens dont la passion est...
d'aller piéger le renard, d'aller piéger le blaireau.
Ah, un point commun avec Macron, dis-moi. Piéger le blaireau.
L'effet de surprise est un ingrédient de base de la recette du rire. Lui, il a bien compris, celui qui arrive, tout en nonchalance, avec ses pulls informes et ses cheveux informes. Et puis, pan ! Son début de chronique est une guitare électrique, clac clac. Effet de surprise, c'est Thomas VDB. Bonjour Thomas.
Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Vous savez que moi j'adore ma patrie. Ouais. Moi j'adore les moines. Je vais donc vous parler des journées du patrimoine dans ma chronique d'aujourd'hui.
Et à nos côtés, aujourd'hui aussi, voici celle qui va vous enjailler, les amis. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Marina Rollman.
Oh, allez.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnault.
par Jupiter.
Bienvenue Marina Rollman.
Merci par Jupiter.
Nos auditeurs vous connaissent bien car vous êtes régulièrement chez Nagui. On attend votre retour après votre tournée bien sûr.
Évidemment.
Vous êtes en pleine tournée. Vous faites partie de cette vague suisse qui a grand remplacé la vague belge de l'humour sur Inter.
Un tsunami très lent mais implacable.
Oui, on le voit arriver, hein, le tsunami du lac ouais. comme on dit. Et vous êtes donc en tournée avec un spectacle drôle, Marina Rollman.
Et vous abordez de manière assez frontale un sujet qui existe depuis longtemps dans le rire, Buster Keaton qui était franchement neurasthénique, Woody Allen bien sûr, qui est la dépression. Et comme le spectacle n'a pas pu être joué au départ parce qu'il y a eu une épidémie.
Absolument.
Ah oui, la fameuse épidémie.
En écoutant votre spectacle, qui est fort drôle, hein, mais qui traite quand même de ce sujet, qu'il est moins, on ne va pas se voiler la face, je me demandais si tout ce qui était arrivé pendant cette année et demie avait encore amplifié ce que vous aviez envie de... Enfin, la confrontation que vous jugiez nécessaire avec la dépression.
Un petit peu, c'est-à-dire que j'en parle un peu dans le spectacle. Moi, je trouve que ça a été une année délicieuse pour les gens qui ont un peu ce tempérament-là. Parce que tout le monde allait pas bien. Et du coup, tu te sentais pas, par contraste, devoir sortir de tes épisodes un peu bluesy, parce que même les gens qui sont normalement hyper pampilables comme ça, bah, ils étaient pas bien non plus. Et j'ai trouvé ça assez chouette, ce petit nivellement par le bas, comme ça. Moi, j'ai bien aimé.
Et ça a fait bouger un peu le contenu du spectacle?
Un petit peu sur cette question-là. Et sinon, en fait, je me suis un peu interdit d'en parler trop dans le spectacle, parce que j'avais l'impression que justement, quand les gens retournaient au théâtre, ils avaient envie qu'on leur parle d'autres choses. C'est quand même ces petits mots-clés qui nous ont hantés, enfin qui continuent à nous hanter. Dès qu'on passe des gens à côté dans la rue, il y a toujours ces bouts de conversation. Ouais, puis test, puis truc, puis variant.
Didier Raoult.
Voilà, exactement, Didier Raoult. Et je me suis dit, c'est chouette pendant une heure et demie d'offrir aux gens l'idée que genre, allez, on fait autre chose maintenant pendant une heure et demie.
On parle de gagging.
Voilà, exactement. Et en même temps, test PCR, gagging, il y a quelque chose quand même sur tout ce qui est ce système, les bronches, il se passe des choses, voilà.
Alors, vous passez de l'anecdotique, type vous parlez de la mozzarella, au plus profond, on l'a vu, bah, par exemple, la dépression. Est-ce que vous écrivez de la même manière ces passages-là, l'écriture étant le fondement de ce que vous faites, et vous adorez ça. Est-ce que vous rendez grave le sujet de la mozzarella pour accentuer le rire, et plus léger le sujet de la dépression? Comment? Parce que vraiment, on passe du sujet totalement anecdotique au sujet profond, c'est un peu votre marque de fabrique aussi.
Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce jeu d'échelle et de voir des systèmes dans tout, et donc de pouvoir dézoomer ou au contraire zoomer, finalement, ça se dit assez facilement aussi. Je trouve ça chouette parce que effectivement, j'ai l'impression que ça permet de rire du dérisoire et du très grave en ayant ces espèces de soupapes de « Oh, finalement, tout ça est soit extrêmement grave, soit pas du tout. » Et c'est un exercice que j'aime bien. Et j'aime bien voir aussi des points communs entre des petites manières de fonctionner dans l'anodin, l'anecdotique, des petits échanges qu'on a, comment on va se parler dans la queue au supermarché, le truc. Et puis tout à coup, d'essayer d'appliquer ça à genre « Mais finalement, le G20, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas une grande réunion de famille ?» Et j'aime beaucoup ça. J'ai cette tendance à voir ça. Et je pense que ça fait que les gens, à la fois on a l'impression d'avoir vu un spectacle, on a quand même dit des choses intéressantes, c'était un petit peu intelligent, et en même temps on n'a pas l'impression d'avoir vu une conférence barbante. Enfin, on est un peu dans cet entre-deux. Ça a l'air un peu anodin, et puis on traite quand même des choses importantes, et puis à la fois on s'ennuie pas, je crois. Voilà.
Finalement, c'est comme en économie, il y a du micro-comique et du macro-comique.
Exactement.
C'est la petite touche Marina Rollman, donc. Hein. Alors, et dans l'anecdotique, il y a notamment le vinaigre balsamique.
Oui, alors non, c'est pas tout à fait anecdotique.
C'est pas un spectacle uniquement sur la nourriture.
Aller voir un spectacle comique, c'est un mécanisme de défense. C'est d'abord parce que c'est normalement, et c'est le cas avec vous, l'occasion de bien rire, et ça fait du bien, mais aussi parce que les gens qui écrivent ces spectacles, en fait, eux aussi cherchent des mécanismes de défense pour se tenir en vie ou en survie. Et vous, sur notre époque, vous avez un regard qui... Enfin, j'ai noté un truc qui m'a fait vraiment beaucoup rire, c'est qu'il y a une partie à la fois très sucrée qui est... On a inventé le vinaigre balsamique et on a inventé le crossfit également, oui. qui est aussi raide et dur que le vinaigre balsamique, est mou et doux.
Exactement.
Et est-ce que notre époque, en fait, elle pourrait pas, enfin, ces petites années là qui viennent de se passer, elle pourrait pas se résumer à ça?
C'est ça, on est dans une espèce de drôle de polarité entre BDSM et sucré partout. On est dans un truc, mais je pense que ça dit quelque chose. On est une ère post-religieuse, et donc on cherche à nouveau ces endroits de genre, on va être sauvés, tout ça est merveilleux, il y a des angelots avec des petites flutines, et à la fois, ah, pénitence, non, il faut quand même un peu se... Et donc voilà, je pense qu'on a remplacé ça par ce qu'on peut, par des petits usages un peu pop, comme ça, le crossfit et le vinaigre balsamique. Le salut et le chemin de croix, un peu.
Oui, et puis peut-être aussi lutter contre... Enfin, le crossfit, c'est aussi un truc où on s'imagine qu'on va pouvoir se battre, par exemple, contre des zombies.
Exactement, ça c'est complètement. Il y a de ça. Ouais, je me dis toujours, ils ont l'air de centrer. Je sais pas pourquoi. Je me dis, est-ce qu'ils vont inverser la courbe du chômage? Ils ont l'air de, ils poussent de la fonte de plus en plus. Et on ne sait pas trop à quoi ça sert. À mourir en très bonne santé, j'imagine.
Ouais. Il y a un côté conférence de sociologie quand même dans le spectacle.
Ouais, de supermarché. Sociologie de supermarché, de comptoir.
Vous êtes aussi connu pour avoir un débit de parole assez rapide. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas tout à fait à le maîtriser, ou aussi il soutient votre manière d'écrire et que vous écrivez en fonction, parce qu'il nous maintient dans un rythme. Faut dire, on doit avouer, Juliette et moi, qu'on n'a pas pu vous voir sur scène pour les raisons que tout le monde connaît, parce qu'il paraît qu'il y a une épidémie. Et on a pu écouter une captation audio de votre spectacle. Donc on fermait les yeux, on écoutait. C'est vrai qu'il y a des années, on écoutait aussi beaucoup de spectacles humoristiques.
Vous avez fermé les yeux, vraiment.
Ouais.
Vraiment, c'était du Pink Floyd.
C'est ça. Elle a écrit sur vinyle d'ailleurs.
Sur la question du rythme, vous écrivez en fonction parce que vous savez que vous partez très vite à toute blinde. Il vous soutient, comment ça fonctionne?
Moi, j'écris en parlant. J'écris plus derrière mon ordinateur. Maintenant, le spectacle, il y avait une espèce de, il y avait une heure il y a 4 ans, et petit à petit, j'en ai enlevé 5 minutes, rajouté 5 minutes. Mais à chaque fois que j'ajoute, c'est que j'ajoute une phrase en impro, puis 2, puis 3 minutes. Mais en fait, je l'ai fait sur scène. Et donc, comme je pense, j'ai un peu peur, il y a de l'adrénaline, et j'ai peur que ce soit pas drôle et tout, je le dis très vite pour masquer si c'est nul ou faire rire les gens et les emporter dans une espèce de tourbillon d'arnaque si c'est bien. Et donc, comme j'écris en parlant et que je parle vite, ça se fait assez naturellement, quoi.
Moi, j'ai écouté les yeux fermés parce que je voulais l'imaginer sur scène. Je voulais vous imaginer.
Il paraît que c'est, ouais. J'ai un jeu de bras étonnant. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis drôle des bras et je ne sais pas comment le prendre. Parce qu'il y a des gens qui me le disent aussi quand je danse et vraiment, je ne sais pas comment le prendre.
Ça sera peut-être le deuxième spectacle. Ça s'appelle Un spectacle drôle des bras, donc. Marina Rollman. Vous jouez par exemple à Canteleu le 23 tout septembre et le lendemain, vous serez à Saint-André-de-Cubzac car vous êtes en tournée dans toute la France.
Absolument.
Toute la République vous accueille, Marina Rollman. Sur France Inter aussi, d'ailleurs.
Teardrops for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always laughing way down at me. But watch out now, you way down here, and you'll start crying 96 tears. Cry, cry. And when the sun comes up, I'll be on top. You'll be right down there looking up, and out my way, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you, but I know now, I'll just cry.
C'était Question Mark and the Mysterians qui chantaient 96 Tears, en français 96 larmes, en suisse et en belge. Oui. Ça c'est 96 larmes, 96 larmes, pardon pour les français. Il est 17h22 sur France Inter, Juliette Arnaud, nous recevons aujourd'hui Marina Rollman, et qui pour l'entourer?
Mais pas de larmes, du rire, de la musique avec Djoubaka, du rire avec Thomas VDB et... avec Guillaume.
Des effets sonores.
Alors il y a toujours aussi un petit jingle pour annoncer le journal.
Ça Charline Van Honecker, comme plusieurs de ses collègues de France Inter, n'a d'humoriste que le nom.
Le journal de presque 17h17.
Sous le prétexte de l'esprit ou de la dérision, elle et tant d'autres sont les petits soldats de la bien-pensance aux indignations sélectives.
Et on commence par les titres.
J'étais pas au courant. Oui, dans ce journal, on parlera d'Elisabeth Borne.
Ah bah non, vous avez 10 orbes encore là, Charline.
Non, Elisabeth Borne, j'ai dit.
Oui, d'accord, Borne. Mais articulez bien, parce que je me méfie maintenant avec vous.
Ok, allez, dans ce journal, on parlera aussi d'un flop.
Non, là, vous avez 10 orbes, là, vous avez 10 orbes, j'entends 10 orbes. Je suis pas fou, j'ai entendu.
Mais j'ai dit flop.
Ouais.
Et enfin, on parlera d'Éric Zemmour.
Ah, là, c'est plus clair, parce que là, vous parlez bien d'une belle tête.
Jingle, jingle. Allez, voilà.
Je peux rien dire, j'ai l'impression. Et on commence par la politique.
Oui, ce week-end, Olivier Faure a été réélu premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et l'amicale laïque de Châteauroux a élu son premier vice-président, la personne de Bernard Dufour.
Attendez, c'est quoi le rapport là ?
Ah bah, on donne les résultats de toutes les élections à des gens inconnus, donc.
Guillaume, Olivier Faure, c'est pas des inconnus.
Bah, Olivier Faure, vous êtes sûr ? Qui connaît Olivier Faure ? Bah voilà, personne, voilà, c'est ce que je dis.
Présidentielle 2022, Hervé Morin et son parti Les Centristes plaident pour une primaire ouverte.
En fait, on fait tout le journal avec des gens pas connus, en fait. Ça, bon, donc il y a Monique Radoul qui a été promener son chien hier
après-midi. Guillaume, Hervé Morin quand même, bah, putain, non, mais c'est un célèbre philosophe, enfin.
Non, ça c'est Edgar Morin, ça.
Ah oui, pardon, autant pour moi. Bah, oui, oui. Non, Hervé Morin, vous avez raison, c'est le chroniqueur de chez Nagui.
Daniel Morin.
Ou alors c'est celui qui jouait de la clarinette qui est...
Non, je sais pas qui c'est. C'est pas possible, faut faire avec des gens connus.
Politique toujours, voilà. Jean-Luc Mélenchon débattra jeudi avec Éric Zemmour.
Alors ça c'est marrant, ça c'est très marrant.
Ah bah ça vous amuse.
Oui,
vous.
Parce que Jean-Luc Mélenchon, il porte exactement le même nom qu'un gars qui a dit dans Libé vendredi, je cite, est-ce qu'on va se laisser enfermer dans des débats puants avec Zemmour? C'est le même nom, c'est le même nom.
Oui, bah visiblement la réponse est oui. Éric Zemmour toujours.
Oui, suite au fameux donc Zobgate de Charline Van Honecker, votre collègue de la matinale, Charline de France Inter, Alexandre Devecchio, est venu vous soutenir publiquement sur le plateau de CNews.
Au fond, je pense que c'est scandaleux et que c'est dangereux. Je reviens sur la nazification de l'adversaire. Quelque part, c'est un peu un appel au meurtre d'Éric Zemmour.
Mais bien sûr, Alex, tu as raison, c'est clairement ça que vous avez fait, Charline, puisque je rappelle que Zob, ça veut dire zigouiller ostensiblement les baltringues.
Oui, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en cas de guerre, on sait à qui ne pas confier la pharmacie.
Oui. Allez. Une dernière actu politique.
Oui, c'est cette semaine que les Républicains vont décider des modalités de désignation de leur candidat à la présidentielle, mais de nombreuses questions persistent.
Oui, notamment la question pourquoi les Républicains ?
Oui, ou encore Christian Jacob a-t-il retrouvé son charisme ?
Oui, enfin, est-ce que Fillon a rendu l'argent ?
Bah là, on sait que c'est
oui,
non.
Oui, là, on sait que
voilà.
Non. Là,
et donc, économie à présent. Elisabeth Borne souhaite que les salaires de branche qui sont inférieurs au SMIC soient revalorisés.
Ah oui, alors tout est dans le « souhaite que ». Parce qu'elle serait ministre, bah elle pourrait l'imposer, vous voyez.
Attendez, là, elle est ministre.
Ben non, sinon ce serait vraiment du foutage de gueule, Charline. Vous pensez que c'est ça ?
Je ne sais pas, à votre avis.
Je suis trop naïf,
Allez, international, selon Boris Johnson, l'amour de Londres envers Paris est indéracinable.
Indéracinable, vous dites ?
Oui.
Ça veut dire qu'il est enterré bien profond,
voilà,
hein, c'est ça.
Ouais,
voilà. C'est pas ce que je pensais, on enchaîne.
Allez, international, toujours le parti de Vladimir Poutine est arrivé en tête du premier tour des législatives.
Non ! C'est pas possible ! La surprise est totale !
J'ai une info qui va encore plus vous surprendre.
C'est pas possible, Charline !
Si ! Non ! L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé.
Ah, attendez, on n'est pas censé traiter les infos les plus récentes ?
Si, mais il est mort ce week-end.
Non, attendez, ce week-end de quelle année ? Soyez précise, Charline, parce qu'après, les gens ils vont croire qu'il vient juste de mourir.
Là, non, j'ai pas l'information.
Ben oui, mais il faut être précis. Là.
Marina, elle rit déjà juste à l'information. C'est vous dire si le monde va mal. On lui dit le titre, on dit Olivier Faure, bam, elle rit. Marina Rollman avec nous, elle est en tournée dans toute la France et on aborde ce premier sujet. Le général de Gaulle avait prévenu. Ah. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Hein, et puis après, les Australiens n'ont pas acheté nos sous-marins. Bah ouais, bah c'est les Américains qui récupèrent le contrat. Et le Drian, ah bah il s'est bien fait niquer aussi.
Les Italiens, les Espagnols, je dis pas on s'arrange, on négocie. Mais putain Gabriel, les Américains, tu prends pas ce genre de risque avec eux.
Eh bah si, figure-toi. Si, dans le métier, si. Ils sont tellement relous avec leur contrat impossible à tenir, là.
Eh, tourner la nuit le jour, c'est n'importe quoi. C'était sûr qu'il allait avoir un problème, je te l'avais dit.
Putain, mais t'as toujours pas compris que 90% du boulot, c'était régler des problèmes. Alors tu vas pas nous en vouloir à chaque fois qu'il y a un problème. Parce que justement, s'il n'y avait pas de problème, alors on n'existerait pas. Alors si tu pètes les plombs à chaque fois qu'il y a un problème, à ce moment-là, il valait mieux investir, c'est pas dans des putains de lavabos, tu en sais rien, moi.
Grégory Montel et Assad Bouab dans 10%, la série de France 2. dans laquelle vous avez joué, n'est-ce pas?
Une petite apparition, ouais, effectivement.
Marina Rollman, vous avez une passion pour les États-Unis, culturelle notamment, vous lisez beaucoup en anglais, etc. Vu comment ils nous méprisent là, est-ce que c'est pas un petit peu une passion coupable en ce moment?
Attendez, mais nous, de quoi on parle? Moi, je suis représentante
Français,
de la... Ouais, moi, je sais pas ce qui se passe.
Oui,
il y a une autre actu.
Ouais. Vous le dites ou je le dis?
Non, allez-y.
Bon, donc il se passe la même avec les rafales et la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse, finalement, elle a pas tout à fait prévenu non plus, mais elle préfère les avions de combat américains.
Et sachez que j'ai été la cible des représailles diplomatiques, puisqu'en arrivant à France Inter tout à l'heure, il se trouve que c'est pas très original, mais mon porte-clés, c'est un couteau suisse, et on me l'a confisqué à l'entrée. On dit, vous planquez les armes, ça suffit, ça va dans les deux sens, c'est
connerie. Mais qu'est-ce que vous faites à couteau suisse avec ça?
C'est mon petit porte-clés, quoi. Donc ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas me le garder en bas à la sécu, donc on a dû aller le planquer avec le monsieur de la sécu près d'un arbre. Pour que je puisse le récupérer.
Ah ouais.
Mais non. Parce que j'allais vous attaquer avec mon coupe-ongle à tout moment.
C'est fabuleux. Et donc, Emmanuel Macron annule la visite à Paris de son homologue suisse et confisque le couteau suisse de Marine Le Pen. Donc, Guy Parmelin s'est fait ghoster par Macron, il ne viendra pas à Paris. Et donc, la France est fâchée avec la Suisse. Est-ce que ça vous attriste un peu ou c'est pas très grave?
Terriblement. Non, mais je me demande vraiment cette histoire de diplomatie, si on faisait ça avec autre chose que des hommes hétérosexuels, si ça passerait mieux en fait, si on arriverait à se parler, si tout ça serait un peu fluide, je sais pas. Ouais, je me demande un peu. J'ai vraiment l'impression qu'ils savent pas se causer, quoi.
Généralement, avec Merkel, ils se causent un peu mieux. Ça fait
tout de suite.
Elle a connu plein de présidents français. Là, elle part, ils sont tristes.
Donc, imaginons si c'était des personnes LGBT, par exemple, ce serait extrêmement fluide. Tout serait super. Ça irait plus vite.
C'est vrai. Et puis, peut-être qu'ils vendraient pas d'armes.
Effectivement.
En tout cas, on peut se féliciter que les Australiens ne veulent pas tuer français. Ils préfèrent tuer américains. C'est la bonne nouvelle. Mais sinon, pour y revenir plus généralement, qu'est-ce qui vous attire dans cette culture américaine?
Je crois qu'en fait, j'ai une petite passion pour la pop culture. On en parlera un peu plus tard, j'ai l'impression, avec un des sujets qui était en une. Je trouve très rassembleur l'idée qu'on ait des référents communs et qu'on rit tous des mêmes choses. Et c'est évident que le soft power a fait que tout à coup, on a pu tous avoir les mêmes héros. C'est pas forcément des bons héros, c'est pas forcément des héros intéressants, mais j'ai l'impression qu'on a un peu du mal à recréer ça en Europe. C'est ce qui fait aussi notre richesse. C'est formidable de changer de langue d'un pays à l'autre et qu'on n'ait pas les mêmes séries, les mêmes films et tout. Mais il y a un truc rassembleur que je trouve assez excitant. Après, c'est pas un pays tout rose du tout, hein, j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai qu'à New York, il y a quand même une énergie dingue.
Marina Rollman, est-ce qu'on écouterait un petit peu de musique prescrite par Chewbacca qui va encore nous emmener, mais je ne sais où.
Bon, on va voir où je vous emmène, quoi, parce que vu qu'il pleut à Paname, là, moi j'ai envie de me faire bronzer le Mickey, j'y retournerai bien. Donc je me suis dit qu'un peu d'exotisme partagé, ça ferait pas de mal. Alors comme je suis pas avare de conseils qui ne servent à rien, c'est parti. Alors le groupe dont je vais vous causer va vous permettre d'avoir un sujet dans votre prochain dîner en ville, car aujourd'hui Aphrodite s'en mêle, c'est de rock chypriote dont on cause. Je sais pas si vous avez entendu le silence qui vient de se faire, mais vous aurez compris que cet effet d'annonce a toutes les chances de faire de vous l'héroïne ou le héros de la soirée. Donc on file un grand coup de tatane comme ça dans les a priori. Donc le groupe, il vient de Nicosie, la capitale que l'île, que l'intelligence humaine a eu la bonne idée de couper en deux. Donc il y a un côté sous domination turque et l'autre pour les Grecs. Et vous savez, quelques années après les événements de 74 qui ont amené cette séparation, il y a eu un problème à Chypre avec le rock. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe qui a émergé et qui s'appelle Kim Style Teenage Revolution et qui sort un titre qu'aujourd'hui ne poserait absolument aucun problème, mais qui, dans les circonstances de l'époque, avait mis la jeunesse en émoi. On sait bien ça, les jeunes, c'est dangereux, des fois qu'ils auraient envie de liberté. Et donc ça, c'était tellement pas beau que les autorités locales ont pris la décision de cramer à la douane tous les disques. C'est une première en Europe et ça a mis fin à la discussion. Mais bon... Comme on le sait, il suffit d'interdire pour que la mèche s'enflamme. Et finalement, donc je vous fais un peu le topo de la musique chypriote quand même. L'île va voir éclore une scène de heavy metal et de black metal qui, pendant une paire d'années, va vraiment faire parler d'elle. On les voyait dans les festivals. On disait, tiens, il y a un groupe chypriote. On se passait la cassette et tout, tu vois. Et il y a encore quelques groupes qui peuvent se targuer, d'avoir été en haut de l'affiche, comme les Quadraphonies, que je vous conseille d'écouter. Voilà. Mais bon, faut pas s'emballer quand même. Ça reste un truc pour obstiner. Et bon, voilà, il y a 10 ans, on entend parler d'un groupe avec un nom presque frenchy qui s'appelle Monsieur Doumani. Le groupe s'appelle Monsieur Doumani, ils sont chypriotes. Ils apparaissent à un moment où il y a une sorte d'emballement mondial qui consiste à revisiter la musique traditionnelle et à l'accommoder à la sauce électro ou rock, quoi. Alors, l'île de Chypre, ben, elle est bien placée parce que pendant toute son histoire, elle a été au centre des influences musicales de la Méditerranée, donc le son des Balkans, de l'Anatolie, de la Grèce, de l'Afrique, etc., etc. Tout le monde se bouscule là-bas. Et c'est l'avantage de la musique, en fait, parce qu'elle traverse les guerres et les conflits sans qu'on puisse l'arrêter. Elle s'en fout, elle, qu'on ait séparé l'île en deux. Et les mecs de Monsieur Doumani, en fait, ils savent profiter de cet héritage. D'abord, ils le respectent et puis ils le font coexister en créant un son presque apatride. Alors, le quatrième album vient de sortir. Et comme, ils sont pas nés sur l'île d'Aphrodite pour rien, ils savent se laisser bercer, eux, par un brin de poésie. Donc le titre de ce disque est je vais essayer de le dire, pissourin, je ne sais pas, mais qu'on va traduire par obscurité fondamentale. Donc c'est un disque consacré à la nuit, aux créatures qui vivent dans l'ombre, aux rêves dans lesquels ils évoluent, et à la nature qui vit plus tranquillement une fois qu'on a baissé le rideau. Alors côté composition, il faut vous imaginer qu'on a là un trio avec un dzouras, c'est un instrument à cordes genre bouzouki, petite guitare, une guitare, une vraie, sur laquelle on aime aussi visiblement faire un peu de percussion, ça tape, et un trombone, donc ils sont trois, un trombone qui imprime visiblement un rythme souvent balkanique, mais qui sait aussi faire un peu de percussion, un peu de tambour quand il y a besoin. Alors vous l'aurez compris, monsieur Doumani, ça se pencher avec intelligence et créativité sur des arrangements affûtés. Ça, c'est moi qui vous le dis, et c'est vrai. Et alors, ce quatrième disque, c'est sans doute là où la rencontre des sons est la plus évidente. Il faut que je vous dise quand même que les trois premiers m'avaient pas super emballé. C'était un peu trop tradit pour moi. Alors, je suis content d'avoir un bon disque qui arrive comme ça. Et il y a un lien qui tient, en fait, toute cette sauce. Et ben, c'est le psychédélisme. Ils ont un groove bien anatolien, bien turc pour le coup, qui permet une transe genre force tranquille. Allez, on écoute. Alors, ça va être dur à dire aussi. À la vrosti. Yosidis, on dirait du psoriasis. Allez, on y va. We'll be right back. Alors bon, c'est pas un temps à mettre un disque qui dort pour traduire les chansons. Donc le disque s'appelle Pissourine, Monsieur Doumani, ça sort, c'est sorti.
Ah, c'est sorti déjà.
Ouais, le 10 septembre dernier.
C'était merci beau, hein. Djoubaka, c'est très joli. On met les références sur la page par
Exactement,
Jupiter,
vous êtes
sur
forte, hein.
franceinter.fr.
Pourquoi vous n'avez pas désannoncé?
C'est tellement plus joli dans votre bouche. Voilà. Marina Rollman est avec nous. Elle est en tournée pour son spectacle. Un spectacle drôle. Et vous serez même à Bruxelles le 28 octobre.
Absolument.
Et à Plougastel le 19 novembre.
Mais oui, c'est la grosse date de la tournée. C'est celle qu'on attend, c'est Plougastel.
Une petite question de Juliette.
Oui, vous êtes en tournée et ça tombe bien parce que vous aimez jouer, mais vous aimez surtout écrire.
Oui.
Qu'est-ce que vous écrivez? C'est quoi le truc d'après? Vous avez fait la chronique, vous voyez le spectacle, ça y est. Alors quoi?
Eh ben là, je fais 4-5 trucs en même temps et je pense aucun va voir le jour parce que je crois que c'est un peu le jeu quand on est scénariste. C'est de dire genre, ouais, là j'ai plein de projets, je bosse sur 4 séries et 3 longs métrages. Et donc là, en gros, je bosse sur des longs métrages et des séries et je pense que voilà, rien ne verra le jour. Mais j'essaye, je lance des bouteilles à la mer comme ça à la télé suisse, à la télé française et on se dit que peut-être un jour, voilà. Et ça resterait des comédies. Et moi, le vrai grand rêve, en fait, ce serait de faire une comédie musicale un jour, mais ça, j'en ai pas encore écrit.
Ouais,
ça, j'aimerais beaucoup.
Paroles et musique?
Ouais, je sais pas, un film où ça danse, quoi. Moi, j'ai grandi qu'avec ça. J'ai envie de faire danser les gens spontanément, tous ensemble. Très bien. C'est mon rêve.
Marina Rollman, je ne vous présente pas. Guillaume Meurice, que nos auditeurs connaissent aussi de triste réputation.
Bon, bah, écoutez, ce week-end, je suis parti en Picardie, les amis. L'ambiance était devenue trop étouffante à Paris avec cette fameuse affaire du Zopgate, la Charline. Hein, quelle honte de mettre des moustaches d'Hitler sur Zemmour. Enfin, c'est de l'antinazisme primaire. On peut pas mettre tous les nazis dans le même sac. On fait pas des amalgames comme ça. C'est ça qui tue notre vivre ensemble. Alors pour me sentir mieux, plus en sécurité, je dirais plus en phase avec mes valeurs, je suis allé à la grande manifestation des chasseurs à Amiens. Et alors là, j'étais ravi, c'était en super, c'était top. Alors, je ne fais pas d'appropriation culturelle puisque je viens moi-même de la campagne profonde. Je suis ce que les Parisiens appellent un plouc. Ah, et vous connaissez l'adage, les ploucs ont le droit de se moquer des ploucs, les noirs des noirs et les gens en état de mort cérébrale des déclarations d'Alain Finkielkraut. Alors, cette manifestation était vraiment sublime, sublime, sublime. Il y avait de la musique, il y avait des couleurs, il y avait des moustaches. C'était la Gay Pride, en fait, hein, mes versions, treillis, éclairons. Parce que le but, c'est plutôt de pouvoir continuer à défoncer de la bestiole, ou plutôt, comme on dit chez les chasseurs...
Principalement, le but est de prélever des canards.
De prélever, ça veut dire quoi?
Prélever, ben, c'est... Je dirais gérer l'activité des oiseaux.
Concrètement,
le chasseur, on l'entend tirer quelquefois.
Ah oui, tire, ouais.
Ouais, ouais, tire.
Le mot c'est plutôt tuer alors.
C'est prélever.
Prélever, voilà. C'est pas tuer, on dit prélever. Ouais, c'est important. Nordal Lelandais, par exemple, prélève des gens. Voilà. Mais bien sûr, non, mais il faut être très très précis. Alors pour être plus précis encore, cette manif, elle avait pour but de défendre la chasse traditionnelle. En Picardie, c'est la chasse à la hutte. On attache un canard par la patte pour que ses cris attirent les autres canards pour les défoncer. Pour les prélever, un canard qu'on appelle un appelant, justement, explication.
Elle est élevée à la maison comme vous élevez votre chien, votre chat.
Voilà. Vous élevez un canard et après vous l'attachez au fond de l'eau avec une corde pour attirer les
autres. On l'attache pour qu'il appelle les autres oiseaux sauvages à venir.
Mais est-ce que c'est pas cruel comme pratique?
On peut tout penser, tout peut être cruel. Vous savez, quelquefois on a des mots cruels envers des amis qu'on adore et voilà.
Et on les attache par la patte autour d'une arme.
Mais nous sommes tous attachés par une patte, monsieur.
On est tous attachés par une
monsieur,
patte.
Monsieur, la liberté, monsieur.
Dans la grande mare de la vie, j'ai envie de dire. On dirait un haïku de Christophe Castaner sur Instagram. Christophe qui lui chassait le globe oculaire au flashball. Vous savez, c'est une chasse traditionnelle aussi. Il y en a plein, il y a désormais la fameuse chasse à la glu qu'on connaît par cœur. Qui, évidemment, ne choque pas les chasseurs.
Mais pour moi, ça ne me choque pas, puisque on a chacun sa façon de faire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de la cruauté, un peu?
Bien sûr que non.
Il n'y a pas de cruauté du tout, par exemple, d'être piégé à un oiseau sur une branche avec de la glu?
Non, pour moi, non.
Mais c'est quoi la cruauté pour vous?
Déjà, en tant que chasseur, j'aime pas les faire souffrir.
Bah, voyez, déjà, on peut être un chasseur sensible. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Qui nous dit que l'animal qui se retrouve collé à la glu sur une branche, il souffre? On ne sait pas. Peut-être qu'il aime bien. Il doit bien avoir des animaux sadomaso. Peut-être que ça les fait kiffer. Voilà, chacun son délire. La direction de France Inter, par exemple, ils aiment bien avoir un De Vecchio qui vient vomir dans leur godasse tous les mercredis matins. C'est chacun son délire. Voilà, qui sommes-nous pour juger, finalement? Voilà, c'est important, c'est l'amour. Et c'est l'amour de l'animal. Parce que la chasse, c'est quoi?
D'être complice avec son chien.
Ouais.
Voir travailler le chien, tout. Après, vous savez, chaque coup de fusil n'est pas d'un... À succès, hein, faut pas croire. Hein.
Oui, des fois, il y a un cycliste de l'autre côté.
Non, 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 non. Arrêtez de nous faire prendre. Parce que, il y en a qui. Forcément, Les accidents de voiture, il y en a tous les jours.
Oui, alors, bon, ça n'a rien à voir, puisqu'il n'existe pas encore de chasse à la Twingo, bien évidemment. Mais, ceci dit, c'est important aussi pour la faune et la flore, de temps en temps, de buter, de prélever un cueilleur de champignons ou un jogger, parce que sinon, ils prolifèrent. Donc, ça régule la population de cons qui disent qu'on ne doit plus chasser. Parce qu'évidemment, il y a des cons partout, hein, n'est-ce pas, monsieur le chasseur?
Oui, il y en a des cons partout.
Mais est-ce qu'un con armé, c'est pas plus dangereux qu'un con pas armé?
Non. Parce que, bon, après, faut savoir se maîtriser. Un coup armé, il arrive à se maîtriser, qu'un coup pas armé, il arrive pas à se maîtriser.
À vérifier quand même, à vérifier. Hein, cette théorie, un con armé arrive à se maîtriser, bon. Bon, je ferai une chronique sur la police un autre jour. Allez, puisqu'on parle de cons, terminons par le roi d'entre eux, évidemment, Emmanuel Macron, qui est un copain de la chasse et des chasseurs, qui est tout proche de céder à toutes les revendications, mais pour eux, ça suffit pas.
Macron, la dernière, quand il est passé, il nous avait dit qu'on aurait pu avoir les oies jusqu'à mi-février.
Ouais.
Le 31 janvier, les a fermés. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Après, c'est une révolution pacifique, c'est tout. Et on attend le 5 mars.
Ça sera peut-être moins pacifique, vous voulez dire ?
Ouais.
On a hâte d'une manifestation moins pacifique, vous l'avez entendu, début mars. Moi, c'est bien parce que ça me laisse le temps d'acheter un gilet pare-balles. Parce qu'entre les fans de Zemmour, les fous de Dieu toute part, on reçoit quand même pas mal de menaces de gens qui veulent nous prélever.
Guillaume Meurice. Merci.
Bah, voilà. On était bien en Picardie. Hein. On était vraiment bien en Picardie.
C'est vrai. Ouais. Mais oui, vous êtes du coup.
Moi, je suis né là-bas, donc.
Vous avez reconnu votre famille un peu peut-être.
Là, on entendait bien les klaxons derrière. C'était bonne ambiance.
À venir, Thomas VDB, et nous sommes avec Marina Rollman, et on va aborder cet autre sujet que vous nous avez proposé, Marina. Est-ce qu'il existe en France une sorte de schisme, je dirais, entre le succès d'estime, souvent jugé de bon goût, et le succès populaire? Pourquoi une comédie populaire n'a jamais trouvé sa place au César? Et cas pratique, que visite le Français qui monte ou descend à Paris, par exemple?
À Paris, quelle belle ville! Tiens, Zazie, regarde! Le Panthéon!
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
C'est peut-être pas le Panthéon.
Ah non, 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 et non, c'est pas le Panthéon.
Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi?
J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon.
On va demander à un passant.
Le passant, c'est tous des cons.
Ça, c'est bien vrai.
Ah, mais j'ai trouvé! Ton Panthéon, c'était la Madeleine.
Peut-être, mais maintenant, c'est du passé, n'en parlons plus. Tandis que ça, petite, regarde-moi si c'est chouette comme architecture. C'est les Invalides. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai.
Napoléon, mon cul ? M'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con.
Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors ?
Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse ?
Le métro.
Eh oui, bien sûr, Zazie, dans le métro, bien sûr. Alors Marina Rollman, en tant que Suisse, vous trouvez qu'il y a une différence de, quoi, d'approche ou de goût culturel entre Paris et les autres villes de France ou les autres endroits en France ?
Moi, en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que je suis retournée au cinéma pour la première fois depuis 1 an et 8 mois et j'ai vu plein de films d'un coup. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, je vais pas les citer parce que c'est pas intéressant en cas pratique, mais un film que j'avais beaucoup aimé, qui faisait beaucoup d'entrées, était conspué par la critique, et un film qui était idolâtré, j'avais vraiment envie de m'énucléer les yeux à la cuillère pendant, et personne va aller le voir en France. Et tout à coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a cette petite déconnexion? J'aime pas ce truc d'imago à la base, parce que voilà, moi, je fais partie de cette élite islamo-gauchiste. J'en suis, hein. Mais tout à coup, je comprends qu'il y a une partie des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce que les critiques produisent, et je trouve ça un peu dommage. Ça veut pas dire qu'il faut pas, de cinéma d'auteur, ça veut pas dire qu'il faut pas de l'art exigeant, mais je trouve ça compliqué qu'on n'arrive pas à se retrouver entre les deux. Mmh. Et qu'on traite de crétins les 2 millions de personnes qui vont voir un film, on se dit, mais alors à ce moment-là, quoi? On se coupe du reste du pays. Enfin, je trouve ça étrange, quoi.
Et les chiffres d'entrée en salle montrent souvent ça aussi, le hiatus, on va dire, qu'il y a entre les zones géographiques. Est-ce que, en Suisse, c'est un peu pareil, vous qui venez de Genève?
Ben, c'est un peu compliqué parce que nous, on est, à part les Français, on est 2 millions. Les plus grandes villes, elles font 300 000 habitants. Donc, enfin, je veux dire, on croise le président dans le train, on voit le présentateur du JT dans la rue. Donc, il y a forcément moins d'écart entre ce qu'on appellerait les élites et les gens qui sont là partout. Donc, peut-être un petit peu moins. Il y a évidemment.
Il y a quand même une grosse différence entre Genève et, je sais pas, le canton de Vaud. C'est pas les mêmes.
Pas tant que ça, parce qu'en fait, le canton de Vaud, il y a Lausanne, qui est une ville à peine plus petite que Genève.
Oui, mais et donc, juste un tout petit peu plus loin.
Oui, il y a la campagne, bien sûr, évidemment, mais le fait est que on est toujours quand même assez proche. Enfin, nos grandes célébrités, on peut les croiser, quoi. À part Federer, peut-être tu le vois pas beaucoup dans la rue, mais sinon, on
c'est
a pas
en Belgique, on croise le ministre au bustrot du coin, nous. En c'est fait, ça. Il arrive pas avec des vides fumées, dans une limousine, avec
c'est
des.
Ça. Voilà. Donc, prends les transports.
Ça change pas mal de choses.
Donc, effectivement, je pense qu'il y a un peu moins de ça. Et puis, on se rend vite compte, quand je sais pas, par exemple, quand on fait du théâtre en Suisse, on est obligé de tourner partout. Et donc, en fait, il y a un côté, j'ai l'impression que ça circule peut-être un tout petit peu plus. Et que la France, déjà à travers la centralisation et puis la taille du pays, fait que je pense, par définition, vous avez 122 pays dans un pays. C'est compliqué, quoi, effectivement, de mettre tout le monde autour de la table. Et
oui,
moi, j'ai ressenti, quand j'ai commencé à faire des chroniques sur Inter, j'ai ressenti très vite, et c'était un an avant, je crois, les Gilets jaunes, dans les commentaires sous les vidéos YouTube, les gens qui étaient vraiment fâchés. Cette idée de Paris qui détient tout, Paris qui est, on vous est tous entre vous et nous, on n'est pas d'accord et on ne se sent pas représenté, elle est palpable partout, tout le temps, cette idée, quoi. Et je comprends qu'elle soit vecteur d'un peu de conflit, quoi.
Eh oui. C'est pas étonnant, en effet. Marina Rollman et Thomas VDB, là, aujourd'hui.
Tout à fait. Bonjour les amis. Moi aujourd'hui je vous parle d'un sujet très léger. Parce que ce week-end c'était les journées du patrimoine, je suis donc allé bagnauder dans Paris à cette occasion. Allez, je vous emmène en balade dans les rues de la capitale. J'essaie de faire Laurent Deutsch, je ne vais pas très bien encore. Regardez cette gargouille au plafond. Elle date du 16e siècle. C'est vrai que c'est la bonne journée pour s'intéresser aux gargouilles et aux moulures, les journées du patrimoine. Donc dans le 12e arrondissement, j'ai découvert un truc qui m'a scotché, moi. C'est un nouveau système pour éviter les PV qui permet de garer un deux roues tout en haut d'une sorte de piquet plutôt moche. Je peux vous dire que le Laurent Deutsch en moi s'est dit,
mais c'est très astucieux.
Non, c'est vrai que c'est la statue pour Johnny Hallyday, évidemment. Alors je trouve pas ça particulièrement Jojo. Enfin, c'est Johnny, mais c'est pas Jojo. Mais c'est pas grave. Voilà, je tiens à dire que ça m'empêche pas de dormir parce qu'il y a des gens qui s'écharpent à cause de la statue de Johnny. Et je crois que je prenne ça trop à cœur. Là, j'ai envie de dire, calmez-vous les gars, parce que l'art aujourd'hui à Paris divise vraiment les gens. Je sais pas si vous avez vu l'Arc de Triomphe décoré par Christo. Alors on aime ou on n'aime pas. L'animatrice de CNews, Christine Kelly, sur son Twitter, elle a posté une photo du truc. Elle a marqué « J'ai honte, désolé ». Alors Christine, si vous m'écoutez, je doute que vous nous écoutiez. Mais bon, je voulais dire, il n'y a pas de lézard, vraiment, mais vous y êtes pour rien du tout, vous n'avez pas à être désolé. Je sais pas si en voyant l'Arc de Triomphe, il y a une seule personne qui s'est dit, bah bravo Christine Kelly, bah bravo Lino, beau boulot Christine Kelly. Je pense, non, on est là, mais c'est pas grave Christine, c'est pour rien. Bon. Alors la troisième œuvre qui divise les gens cette semaine, c'est une affiche d'Éric Zemmour devant laquelle je suis passé et sur laquelle je vois que quelqu'un a écrit Zob et a dessiné une toute petite moustache d'Hitler comme ça. Et moi, vous savez que j'adore le street art, donc je me dis, tiens, mais qui a fait ça? Alors je vois bien que c'est pas du Banksy quand même, mais j'ai envie de savoir. Et donc je vais voir sur internet et je tombe sur une vidéo alors avec cette fille qui fait le dessin de la moustache et je me dis, bah, je la connais celle-là. Je dis, c'est l'animatrice de l'émission chez qui je fais des chroniques sur France Inter. Alors tout le monde, alors vous êtes tombé dessus, Charline, j'ai eu une pensée pour vous, votre téléphone qui a dû passer un week-end bien chargé. Alors je vous peux tout vous dire, j'ai été étonné de la quantité de réactions négatives, parce que je me dis qu'il fasse rire ou non, je croyais que la France était plus solidaire avec ses caricaturistes. Alors si vous permettez que je mette un peu d'eau dans le vin de ce débat, je vais verser vraiment 5 jerrycans d'Evian pour essayer d'étendre un peu tout le monde. Et voilà, c'est le moment de ma chronique où finalement je décide de plus trop parler des journées du patrimoine. Non, parce que moi, chez mes parents, quand on était petits, je vous dis, on était abonnés à Télé 7 jours. Et on trouvait que c'était bien parce que ça proposait toujours la rubrique si vous avez raté le début et ça résumait le début du film. Et moi, quand ma mère, elle achetait le Télé 7 jours, je vais pas dire à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, avec un stylo, je dessinais des petites moustaches au gars ou à la fille en couverture. Tous les jeudis soirs. Et je suis désolé, mais en 30 ans de Télé 7 jours, moi, tout le paf a eu la moustache d'Hitler à un moment. Jacques Martin, Michel Drucker, Véronique Jeannot, Véronique Jeunesse, même Jordi, tout le monde a eu la moustache. Parce que perso, moi je suis nul en dessin. Et franchement, on pense ce qu'on veut d'Hitler. Personnellement, je n'adhère pas du tout à ses idées, mais c'est quand même lui qui a la moustache la plus facile à dessiner. Parce que allez-y, vous dessinez des belles bacchantes à Olivier Mine ou à Thierry Beccaro. C'est pas facile. Hitler, c'est facile, c'est un tout petit carré noir. Vraiment, c'est très facile à faire. Alors je me dis, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire semblant de pas comprendre ce qu'a voulu faire Charline? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais c'est horrible! Elle a fait ça parce qu'il est juif, Éric Zemmour! Et là, alors, excusez-moi, mais j'ai raté un truc, mais moi je savais pas du tout qu'il était juif, Éric Zemmour. Mais vraiment. Alors, xénophobe, j'avais compris qu'il était ça, j'avais compris. Et c'est vrai que Zemmour, c'est plus facile de remarquer qu'il est xénophobe que juif, quand même, hein. Ça, il va interdire les prénoms d'origine étrangère, c'est quand même plus xénophobe que juif, comme initiative, hein, je dirais. Parce que moi, j'ai qui est juif ou qui est pas juif, c'est vraiment un critère qui me passe au-dessus de la tête. Vraiment, je ne fais pas gaffe à ça. Par exemple, quand j'ai vu Rabbi Jacob la première fois de ma vie, tout le monde rigolait. Ah, mais Salomon, vous êtes juif? Moi, je comprenais même pas la blague. Ah oui, d'accord, par rapport à la marque de chaussures de ski. Ça, vraiment, je ne voyais pas le truc, quoi. Alors voilà, donc je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui sont hostiles aux humoristes de France Inter, parce qu'on est payé par leurs impôts. Alors si ça peut vous consoler, on n'est vraiment pas bien payé. Mais je voulais vous dire, si le seul problème que vous avez avec l'utilisation de l'argent de vos impôts, c'est le fait qu'on soit payé avec, mais vous avez de la chance. Parce que moi, dans ma rue, par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont mis un dodane. Et toutes les voitures, elles freinent, ça fait un boucan pas possible, et je suis pas d'accord, mais je fais avec. Je vais pas aller sur la page Facebook de la DDE pour dire « C'est bon, prenez-moi mon argent !» Enfin voilà, je fais avec. Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais dit que je partais sur un sujet très léger, j'ai un peu déplacé. Donc pour vous détendre, je peux refaire une imitation de Laurent Deutsch. On arrive au métro Réaumur Sébastopol. Saviez-vous que le physicien René-Antoine Fershaud des Réaumur est né en 1683 à La Rochelle? Si vous voulez le faire, c'est pas dur, faut faire une voix de petit filou.
Thomas VDB, merci Thomas. Et on vous retrouve jusqu'à fin octobre où vous jouez votre spectacle à l'Européen. Thomas VDB s'acclimate.
Exactement, merci Charline.
Juliette Arnaud pour Marina Rollman, un sujet.
Enfin, les 180 épisodes de Seinfeld arrivent sur Netflix. Un journaliste avait trouvé à l'époque le meilleur slogan pour cette sitcom, A Show About Nothing. Une série qui parle de que dalle. Et où il n'arrive vraiment rien ou alors pas grand chose. Bref, comme la vraie vie, mais avec de meilleurs dialogues. Dans la vraie vie, quand on parle de trucs sans intérêt, c'est pas forcément drôle. Sauf si t'es stone. Ou amoureux.
Parlez-moi de vous. D'où venez-vous?
De Dijon. C'est là où j'ai commencé mon métier d'attaché de presse. Je m'occupais du festival Moutarde et Cinéma.
Ah, c'est passionnant. Et ça parlait de quoi?
De Moutarde et Cinéma.
Oh, formidable.
Ma première voiture, c'était une Peugeot.
C'est extraordinaire.
Et un jour, mes cousins, ils sont allés dormir chez ma grand-mère.
Mais c'est fabuleux.
Alors j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull.
Ah, vous êtes merveilleuse, Odile. Merveilleuse.
C'était La Cité de la Peur avec évidemment Chantal Lobby et Gérard Darmon. Alors Seinfeld, Marina, série qui parle de rien. Est-ce que vous pouvez nous la pitcher?
Là. C'est des gens qui sont vraiment plus absorbés par eux-mêmes que par le monde. Sauf qu'ils essayent de faire corps et ils essayent d'être amis. Donc non seulement ils sont misanthropes avec le reste du monde, mais ils sont même pas très sympas entre eux. Et c'est ça qui est délicieux, c'est que je crois que c'est Larry David qui disait il s'était fixé deux règles, c'était qu'il y avait pas d'embrassade, il y avait pas de câlin, et on n'apprenait rien. Parce que généralement l'arc d'un épisode de sitcom, c'est toujours genre à la fin on finit hug hug câlin câlin
avec la petite morale.
Et voilà. Et maintenant tu sais qu'il faut avoir confiance en toi même si tu as des grandes oreilles. Et là vraiment c'est genre les gens foncent dans le mur de la misanthropie tout le temps. Et c'est merveilleux, c'est délicieux, c'est hyper drôle, ça vieillit pas trop. Non, c'est bien, c'est très très bien, c'est très très bien.
Dans un article, dans une interview au Monde, vous disiez que vous aimiez beaucoup Seinfeld, Jerry, et vous disiez quand tu as un esprit analytique et que tu aimes écrire, tu comprends sa méthode à Jerry Seinfeld et tu peux essayer de l'appliquer. C'est quoi la méthode Jerry Seinfeld?
Alors moi, c'était plutôt le créateur de la série. Il a aussi une carrière dans le stand-up. C'est un peu un des plus grands stand-uppers encore vivant aux États-Unis. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je crois qu'en tout cas, je comprenais un truc un peu dissertatoire. C'est-à-dire si les dodanes, ça nous intéresse, enfin ou ça nous énerve, on peut aller de A à Z et faire une petite argumentation comme on aurait écrit une disserte quand on était à l'école, simplement la ponctuer de petites blagues. Alors, je sais pas si j'ai la méthode, mais en tout cas, je comprenais qu'on allait d'un point A à un point B en essayant de faire une espèce de démonstration. Puis après, il fallait ensuite saupoudrer ça un peu de rire. Lui, je crois que ce qu'il dit, en tout cas dans les trucs, ses petites règles à lui, il s'interdit les mots vulgaires. Il trouve que c'est des béquilles et qu'il en a pas forcément besoin. Il essaie d'aller toujours au plus rapide et de choisir des mots drôles. Ça, c'est un peu les petites règles.
Avec les sons le font rire.
Ouais, exactement. Ouais.
Eh bien, on a un petit sketch pour mettre pas du tout ça en application, j'ai l'impression.
Ça va être très long et les mots sont en revanche pas très marrants.
Voilà, donc on avait compris que Jean-Yves Le Drian ne décollerait pas contre les Australiens qui finalement ne nous ont pas acheté nos sous-marins. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Guillaume, vous êtes le ministre. Marina, vous êtes la dircab du ministre. Et Charline, l'homologue australienne.
Alors, Martina, quel est le prochain dossier à traiter?
Marina.
Ok, c'est pas ce que j'ai dit?
Non, enfin bref. Alors nous avons en ligne l'Australie.
Omar Sy, qui s'y nous veut lui?
Ah non, pas Omar Sy, l'Australie, ah. C'est pour la vente de sous-marins.
Ah oui, bah passez-les-moi.
Alors en fait c'est en anglais, vous voulez pas un traducteur?
Non, qu'est-ce que je ferais d'un tracteur enfin?
Non, un traducteur.
Ah non, vous en faites pas, j'ai étudié l'anglais.
Ah bah super.
À l'université de Rennes.
Ah merde.
Hello Mr. Le Drian.
Yes.
We don't want your submarines.
Yes, la vente de submarines. Ben, je vous en mets 7, hein, c'est ça?
Ah non, je crois que vous avez pas compris. Hein.
We don't want it.
8, d'accord, ben, je vais les mettre de côté, 8.
Non, nous allons prendre les sous-marins américains car ils sont plus performants.
Armoricains, bon, Karina, ils sont armoricains nos sous-marins, là?
Ben, ils sont fabriqués à Cherbourg.
Ben, très bien, yes, sous-marins armoricains. Allez, et si vous en prenez 12, je vous offre les gentalus avec.
Non, you don't understand. We don't care about it. You understand?
Oui, allez, c'est parti pour 12. Ben, je vous laisse parce qu'il y a les chiffres et les lettres qui commencent, là.
Une semaine plus tard.
Alors, ma petite, traduisez en anglais, bande de kangourous, vous savez où vous pouvez le foutre, notre relation franco-australienne.
Mais c'est quoi ça, monsieur le ministre?
Bah, c'est la lettre qu'on va envoyer à Crocodile Dundee, là.
Ah oui, non mais faut vous calmer, on peut passer à autre chose.
Ok, Farina, quel est le prochain dossier à traiter?
Oui, mais alors moi je m'appelle toujours Marina, et puis oui. Farina, ça n'existe pas en fait.
Oui.
Bon allez, il y a plus urgent, il y a l'Afghanistan.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Ah bah rien, les talibans, la dictature, les femmes grillagées, la violence quoi.
Alors, ma petite Farina, vous sortez votre dictionnaire français-arabe et vous traduisez « vent 12 sous-marins est à 9 ».
Ouais, des sous-marins en Afghanistan, c'est un petit peu comme Jean-Yves Le Drian en fait, on n'est pas bien sûr d'en voir l'utilité.
Marina Rollman, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous êtes en tournée pour votre spectacle, un spectacle drôle. Vous êtes en tournée partout en France. Hein. Il y a Nantes, Lille, Plougastel, Aulnay-sous-Bois. Il y a Jouer-les-Tours.
Marseille, mais ça n'arrête pas. La
et
Suisse,
les 16,
la Belgique.
17 et 18 décembre à l'Olympia.
Ouais, ça va falloir la remplir.
À Paris.
Donc,
ouais, donc notez, hein, c'est en décembre les amis. Marina Rollman à l'Olympia. Merci beaucoup à tous. Je vous dis à demain. Nous recevrons le romancier Santiago Amigorena pour un roman qui nous entraîne de l'Argentine à l'Uruguay.
Ça, c'est un bon livre. C'est du lourd.